Et que Dieu notre Père Céleste soit glorifié. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Comment allez-vous ce matin mes bien-aimés? Ça va, vous avez passé une bonne nuit? Bien que Dieu soit béni pour la joie qu'il nous donne de pouvoir nous retrouver en sa présence ce matin.
C'est lui qui, comme notre Père Céleste, comme vous le savez, a renouvelé à notre égard ses bontés et ses compassions qui ne sont pas épuisées. Et en même temps, le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs de bonnes dispositions pour que nous soyons présents, eu égard au fait que nous sommes devenus, certes, des enfants du Père, mais en même temps, d'après ce que nous avons partagé il y a quelque temps, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé. Ah, d'accord. Mais il me semblait entendre une sœur disait des sacrificateurs. Oui, mais c'était bien ça. Que Jésus-Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À celui qui nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et à partir du moment que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, d'avoir expérimenté la grâce de Dieu qui a permis d'abord l'écoute de l'Évangile, la repentance et la conversion accompagnées de la nouvelle naissance, l'obéissance en passant par les eaux du baptême, et notre engagement sur le chemin de la persévérance, eh bien, le Saint-Esprit, comme vous le savez, puisque l'apôtre le dit dans l'Épître à Tite, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mettre en évidence la révélation qu'apporte le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et après que nous ayons fait ces expériences-là, l'apôtre dit, elle vous enseigne, le Saint-Esprit, comme pédagogue en nous, nous enseigne à renoncer à l'impiété pour vivre dans le présent siècle selon la piété et la justice, tout en nous projetant dans le futur, en attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait, frères et sœurs en Christ, que nous sommes là ce matin. On n'est pas là par habitude. On n'est pas là parce qu'il faut être là. Non, nous sommes là parce que Dieu a mis dans nos cœurs des dispositions spirituelles qui, alimentées et dirigées par le Saint-Esprit, permet que ça devient comme une réalité spirituelle dans laquelle nous sommes introduits d'être présents ce matin, comme d'autres seront présents cet après-midi, comme d'autres seront présents demain matin, au premier culte à 8h30, au deuxième culte à 11h, et au troisième culte à 14h30 demain après-midi. Donc ça veut dire autant de services pour que les enfants de Dieu que nous sommes, croyants sacrificateurs, puissent venir pour pouvoir adorer notre Dieu et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous venus ce matin dans ces dispositions-là? Sommes-nous venus ce matin dans ces dispositions-là? J'espère que vous n'attendez pas que le pasteur vous pose la question pour que ce soit une réalité à l'intérieur. Voilà, nous sommes là ce matin parce que nous sommes des enfants du Père et dans le processus divin, à partir du moment que Dieu nous a fait rentrer dans son salut, si vous lisez l'Épître aux Éphésiens, vous allez retrouver ce principe dans les premières pages, les premières paroles de l'apôtre dans cette église d'Éphèse. Il dit que Dieu nous a sauvés selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et ce, afin que nous servions à la louange de la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est-à-dire, simplifions cela, Dieu nous a sauvés pour le servir. Est-ce que nous sommes là ce matin pour le servir? Eh bien, quand nous venons à sa présence avec ses bonnes dispositions, d'abord, il va pouvoir nous parler, il va pouvoir nous fortifier, il va pouvoir nous encourager, il va pouvoir nous instruire, il va pouvoir nous donner à acquérir plus de connaissances. C'est le but de l'enseignement,
pour que nous puissions, en nous faisant chacun une application personnelle, eh bien connaître un développement spirituel, pour que nous puissions grandir jusqu'à atteindre cette stature parfaite d'homme fait en Christ. Et derrière tout cela, eh bien c'est le plan de Dieu, c'est son œuvre, c'est sa volonté, puisque l'apôtre dit aux Philippiens, avec une parole qui montre une persuasion divine, eh bien, qu'il avait reçu, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. À qui lit-il cela? Aux Philippiens. Philippe, à Philippe, l'apôtre avait connu des vertes et des pas mûrs. Suite à une vision que Dieu lui avait montée, un Macédonien qui lui dit, passe en Macédoine, secours-nous. Ils sont passés par plusieurs contrées, jusqu'à ce que Dieu permette, ils expérimentent des choses qui n'étaient pas du tout glorieuses, qui va les amener en prison. Oh, vous me direz, mais pasteur, quand même, il y a quand même Lydie, la marchande de pourpre, qui a cru. Elle a reçu les hommes de Dieu dans sa maison. Mais une pythonisse a couru après eux pendant quelques jours, faisant une belle déclaration. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Vous savez, Satan, des fois, sait dire la vérité, hein? Mais il dit la vérité quelquefois dans le but de nuire. Et ça va pas déroger pour eux. Ils vont être arrêtés, battus de verges, et ils vont être mis dans la prison inférieure. Ou véritablement, avec des cèpes aux pieds, ils sont emprisonnés. Alors comment Dieu peut-il permettre que, avec une vision qu'il leur est donnée, le Saint-Esprit les a empêchés de travailler dans un endroit, l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis d'aller ailleurs pour qu'ils soient en prison? Est-ce que Dieu a fait faillite dans ce qu'il fait? Non. Passe en Macédoine, secours-nous. Dieu n'a pas dit qui c'est, mais dans la prison, les choses vont, le plan de Dieu va continuer à se dérouler. Celui qui avait besoin du secours, c'est un Macédonien, mais il était gardien de prison. Donc il fallait que Jésus agisse dans la prison, sous son lieu de travail, jusqu'à ce que Dieu fasse trembler les murs de la prison, que les portes s'ouvrent, que les liens soient brisés, et que cet homme qui allait se suicider entendre de la bouche de l'apôtre, ne te fais pas de mal, nous sommes ici, avec tous les prisonniers. Lorsqu'il demande de la lumière, la première chose qu'il dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà, Dieu touche au but. Cela signifie, frères et sœurs en Christ, que, on le voit tout à l'heure, dans la vie chrétienne, il y a des moments où Dieu permet que nous passions par certains chemins. Et même si cela peut nous sembler étrange, difficile à comprendre, à supporter, à admettre, Dieu n'attend pas nos avis, il continue son œuvre dans nos vies. Parce que pour lui, le but, c'est pas que simplement nous soyons, eh bien, conduits à connaître un peu de bonheur ici-bas. Non, il a besoin de nous, et c'est au travers de nous, qui sommes devenus ses enfants, il accomplit son plan et son dessein. L'apôtre dit que Dieu a préparé, nous sommes son ouvrage, ayant préparé d'avance de bonnes œuvres, pour que nous puissions les pratiquer. Donc, que Dieu soit béni ce matin pour sa grâce en notre faveur et pour ce qu'il a préparé pour nous ce matin. Alors, mes bien-aimés, je vous invite avec moi à ouvrir vos Bibles. Et nous allons regarder ce matin, d'après la direction donnée par le Saint-Esprit, comment notre Maître Jésus-Christ, qui est au milieu de nous, dans des moments particuliers de... Dans un moment particulier de son ministère, il est vers le temps qui précède le sacrifice de la croix, et il va donner une parole à ses disciples. Et c'est cette parole-là ce matin que nous allons utiliser, ou nous allons nous en servir comme moyen d'enseignement, une porte ouverte à l'enseignement
Et je crois que si le Saint-Esprit l'a inspiré à mon cœur pour que nous puissions le partager ce matin, c'est que Dieu veut nous donner aussi, à nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, à en tirer chacun personnellement une instruction et aussi, je suis persuadé, un encouragement personnel. Cela se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, et nous ferons la lecture à partir du verset 28. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 28. Voici les paroles que donne notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, vous êtes de ceux qui avez, dites avec moi, persévéré dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ceci, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et nous pouvons dire déjà, amen. Que Dieu soit... Voici une parole que notre Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples, ses apôtres, dans une tranche particulière de son existence. Ce sont les temps qui précèdent autant ce qu'il va connaître dans le jardin de Gethsémané, où son âme sainte va connaître, eh bien, vu l'approche de Golgotha, eh bien, toutes les souffrances et aussi une situation particulière qui est décrite par l'Évangile comme étant les angoisses. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus parle à ses disciples, « Vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous soyez assis avec moi sur des trônes et que vous jugiez les 12 tribus d'Israël. » Frères et sœurs, en Christ, que nous avons cru pour le salut, c'est ce même principe qui se retrouve applicable à chacune de nos vies. Nous avons été placés par le Seigneur sur le chemin de la persévérance. Mais sur le chemin de la persévérance, ou le chemin de la persévérance, c'est en même temps le sentier de la justice. C'est le sentier de la droiture. C'est le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Vous êtes d'accord avec moi? On peut donner plusieurs qualificatifs ou plusieurs attributs au chemin de la persévérance. Mais nous ne devons pas croire que le chemin de la persévérance soit un long fleuve tranquille. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Non. Sur le chemin de la persévérance, croire que nous y soyons engagés avec Jésus-Christ, nous allons connaître des épreuves et des combats. Et si j'osais, je vous dirais ce matin, qui, à partir du moment qu'il est devenu enfant de Dieu, placé sur le chemin de la persévérance, n'a jamais eu d'épreuve. Vous me direz, pasteur Gentil, c'est un non-sens ce que vous dites là, puisque la vie chrétienne, la vie d'enfant de Dieu, eh bien, obligatoirement, eh bien, est définie par l'épreuve, car c'est par l'épreuve, ou les épreuves, que Dieu nous forme, qu'il nous façonne, qu'il nous travaille, afin que de plus en plus, en utilisant la personne de son fils Jésus-Christ, eh bien, lui travaille à nous faire ressembler à Jésus-Christ, le modèle parfait. Dans ce cadre-là, frères et sœurs, en Christ, quand Jésus parle à ses disciples, eh bien, il sait qu'ils seront confrontés à une parole qui est donnée dans Matthieu 26, verset 31, où Jésus va leur rappeler une prophétie donnée par le prophète Zacharie, dans Zacharie 13, au verset 7, qu'il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Il le sait. Cela veut dire, frères et sœurs en Christ, que tout ce qui va nous subvenir comme enfants de Dieu et que Dieu permet sera sous son contrôle. Tout sera sous le contrôle de Dieu. Et j'ose vous dire ce matin qu'aucune épreuve ne nous survient qui soit au-dessus de nos capacités. Parce que avec l'épreuve, non seulement Dieu a préparé le moyen de nous en sortir, mais s'il le permet, c'est pour nous amener progressivement, comme de bons élèves, à cette expérience et cette capacité de tirer profit des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Laissez-moi vous dire que dans ce cadre-là, frères et sœurs en Christ, il y a l'apôtre Jacques qui nous dit, dans Jacques 1 au verset 2, de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pourrions être confrontés. Mais non, mais pasteur, je n'ai pas du tout envie de regarder une épreuve, parce que le mot épreuve signifie souffrance, difficulté, combat, opposition, et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, l'apôtre nous dit de regarder comme un sujet de joie complète. On dirait qu'il y a un non-sens, mais il n'y a pas de non-sens. Il y aurait un non-sens si je regarde les choses uniquement avec mes yeux de chair. Mais oui, mes yeux de chair vont toujours arriver à cette déduction, c'est pas possible. Comment cela se fait-il? Pourquoi Dieu le permet? Et toute une série de questions qui font souvent vont rester sans réponse. Parce que dans la Bible, il est dit, qui dira Éternel, que fais-tu? Abraham, il a dit qu'il n'y a rien d'étrange de la part de l'Éternel. Il n'y a rien d'étrange. C'est Dieu qui fait tout. Esaïe dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ça veut dire, à partir du moment que Dieu nous a pris en main, il continue son travail. Il continue son œuvre. Alors quand Jésus parle ainsi à ses disciples, aussitôt après, nous sommes placés sur le chemin de la persévérance en considérant, eh bien, quelques points scripturaires dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, où nous allons tirer des leçons ce matin. Chacun pour sa vie personnelle et sa marche avec le Seigneur sur le chemin de la persévérance. La première leçon, verset 31. Verset 31 de Luc 22. Le Seigneur lui dit, donc il vient de dire, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi, hein, nous l'avons lu, hein, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment.
Mais vous remarquez, Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, mais j'ai prié pour vous, hein. Mais j'ai prié pour toi. Cela veut dire que sur le chemin de la persévérance, mes frères et mes sœurs, malgré que nous persévérerons avec Jésus-Christ, nous allons connaître l'opposition de Satan. C'est obligé. Mais tout en connaissant l'opposition de Satan, nous avons un intercesseur qui s'appelle Jésus-Christ. Et dans son office céleste, dans son intercession, il va s'adresser au Père en notre faveur, afin que même si Satan déploie toutes sortes d'artifices pour que, s'il était possible, nous soyons arrêtés sur le chemin de la persévérance, Dieu nous fasse passer les obstacles qu'il dresserait les unes après les autres. Les uns après les autres, un obstacle. Vous n'avez jamais connu l'opposition de Satan en tant qu'enfant de Dieu sur le chemin de la persévérance? Mais bien sûr! L'enfant de Dieu que nous sommes sur le chemin de la persévérance, je vais vous rafraîchir la mémoire, nous sommes confrontés à 4 ennemis plus ou moins redoutables les uns que les autres. Le premier ennemi, c'est la chair en moi, le vieil homme, qui va toujours essayer de s'opposer en moi à ce que Dieu dit. Le second ennemi, c'est le monde autour de moi, avec ses dehors artistico-politico-religieux, eh bien, va sur des dehors gouvernés par Satan, avec des séductions et des tentations, me glisser toutes sortes de peaux de banane pour me faire chuter. Troisième ennemi, Satan contre moi, avec ses démons et ses mauvais esprits. Il constamment va essayer, en utilisant des artifices spirituels, mais diaboliques, envoyer des flèches dans mon esprit, dans mes pensées, utiliser un moyen aussi qui est nuisible, qu'on appelle l'accusation, pour que, eh bien, il travaille à l'intérieur pour me faire ruminer des choses, mais toujours au détriment de mon âme. Et le dernier ennemi, vous le connaissez, c'est la mort devant moi. Mais béni soit Dieu, quel que soit, ils sont tous, dites avec moi, vous n'êtes pas convaincus, hein? Ils sont tous vaincus. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Ma vieille nature, Dieu, symboliquement, l'a crucifié avec le Christ dans sa mort expiatoire. La chair et le sang ont été crucifiés avec Jésus-Christ. Le monde autour de moi, Jésus me dit, Claude, tu auras des tribulations dans le monde. Mais débrouille-toi et fais comme tu peux. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il m'a placé sur le chemin de la persévérance, mais il m'a donné des éléments pour que je puisse avancer, sans, malgré tout ce à quoi je pourrais être confronté. Il m'a jamais dit, Claude, je te place sur le chemin de la persévérance, eh bien, tu vas te débrouiller comme tu peux, et advienne que pourra, si tu peux, tu arriveras jusqu'au bout de la course. Non! Ça, c'est pas mon Seigneur. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré. Dites avec moi. Vous avez persévéré? Dites avec moi. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi. Donc si Jésus dit que vous avez persévéré avec moi, ça veut dire que moi je persévère avec vous. Gloire à Dieu. Tribulation. Mais dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et cette parole-là, Jésus va le dire à quel moment? À un moment donné, ou plus haut dans l'évangile de Jean, il va le dire, voici, quels seront les attributs du Consolateur lorsqu'il viendra habiter en vous. Il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Il vous annoncera toutes choses. Et la suite, la conclusion des attributs du Saint-Esprit, il me glorifiera. Et un des éléments de Satan, c'est justement de créer des tribulations pour nous empêcher de glorifier Jésus. Est-ce que ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas laisser l'ennemi t'empêcher de glorifier Jésus? Non! Tribulation, opposition, combat, désagrément, je glorifie mon Dieu et je glorifie Jésus-Christ. C'est ça pourquoi je suis là ce matin. C'est pas les épreuves qui m'ont amené là pour que je puisse supplier Dieu avec des lamentations, des jérémiades, etc. Lever le poing, c'est... Non, je suis là ce matin pour glorifier mon Seigneur. Gloire à Dieu. Tribulation sur le chemin de la persévérance. Mais malgré tout, avec mon Dieu, je franchis des obstacles. Deuxième point, frères et sœurs en Christ. Placé aussi sur le chemin de la persévérance, il y a une leçon qui va nous être donnée, et je crois aussi qu'elle est importante. Cela se trouve dans Luc 22, verset 24. C'est juste avant la parole initiale que nous avons lue. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves, mais avant ça, regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, comment le verset 24 va ouvrir la pensée. Il s'éleva aussi parmi les apôtres, dites avec moi, une contestation. Et cette contestation était celle-ci, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, Jésus veut prendre maintenant son exemple, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table qui se fait servir? Et moi cependant je suis au milieu de vous, dites avec moi, comme celui qui sert. Cela veut dire que sur le chemin de la persévérance, où nous avons été placés, il faut que ce sentiment, ce trait de caractère qui était en Jésus-Christ, soit prédominant dans chacune de nos vies. Lequel, pasteur gentil? L'humilité. C'est difficile à sortir, hein? Et vous avez raison de manifester la difficulté à le sortir. Pourquoi? Parce que notre vieille nature est attachée à l'orgueil. Elle veut toujours se croire supérieure aux autres. Oui. Il y a toujours quelque chose dans ma vieille nature qui veut s'élever au-dessus des autres. Se montrer. Montrer qu'il a plus de capacités. Montrer qu'il est meilleur. Mais ça n'a pas dérogé parmi les apôtres. Une contestation s'est levée, et cette contestation, à savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Serait-ce Pierre ou Jean ou Jacques? C'était forcément les trois que Jésus prenait avec lui. L'apôtre Jean, Jésus acceptait qu'il mette sa tête sur sa poitrine. Une intimité plus grande avec lui qu'avec les autres. Était-il le plus grand pour cela? Jésus met tout le monde sur le même pied d'égalité. n'y a pas de plus grand. Le plus grand, eh bien, Jésus, lui, là, c'est lui qui est le Fils de Dieu, le plus grand. Mais il leur donne la leçon, lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Il s'assied et ceux qui sont ses serviteurs le servent. Bien, moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Il est venu pour servir déjà à la gloire de son Père, et puis il est venu aussi pour servir au dessein de Dieu pour notre salut. Alors, quand vous comprenez ça, le chemin de la persévérance, vous avez été placé, tout le temps que vous êtes placé sur ce chemin de persévérance, le Saint-Esprit va vous garder petit à vos yeux. Et là, c'est pas une question de taille, ni de prestance, ni de hauteur. Ça se passe à l'intérieur. Et c'est vécu devant Dieu. Parce que les hommes ont vite fait de regarder et de juger à l'apparence. Mais celui qui juge avec les données spirituelles, il juge avec ce que les yeux de l'homme ne voient pas, mais que lui voit à l'intérieur. Et si le Saint-Esprit ce matin nous amène à ce point important sur le chemin de la persévérance, c'est que vous comme moi, nous en avons besoin. Autant comme un fondement de nos vies chrétiennes, mais comme une base solide sur laquelle nous bâtissons nos vies d'enfants de Dieu, pour que nous puissions maintenant être à l'image de celui qui nous a rachetés. Car s'il y avait quelque chose qui était en notre Seigneur Jésus-Christ, les sentiments qui dominaient, c'était l'humilité. Toujours! Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Bon berger. Un autre point. Ah, le temps file à grands pas. Mais je vais quand même vous donner encore deux ou trois points et puis... Tiens, voici le troisième qui arrive. Voici le troisième qui arrive, c'est à partir du verset 39. Verset 39, la Bible nous montre ceci après être sorti, Luc 22, 39, hein. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe, toutefois, de moi cette coupe, pardon, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva, dit avec moi, endormis de tristesse. Frères et sœurs, on crie sur le chemin de la persévérance. Il faut que nous veillions à ne pas se laisser gagner par le sommeil. C'est un danger pour l'enfant de Dieu se laisser gagner par le sommeil. Vous savez, Salomon dans les Proverbes dit ceci, je vous donne la référence, Proverbes 20, verset 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Je répète, n'aime pas le sommeil de peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Et laissez-moi vous dire que pour l'enfant de Dieu que je suis, que nous sommes devenus, sur le chemin de la persévérance, il y a plusieurs sommeils que nous sommes appelés à éviter ou à veiller pour que nous ne soyons pas gagnés. Le premier, c'est celui que nous appellerons le sommeil de la fausse sécurité ou le sommeil de la désobéissance. Jonas, vous le connaissez, reçoit une direction et voici qu'il prend la direction opposée. Puis, dans la barque, il paye le prix, dans le bateau, il paye le prix, et il descend à la cale du bateau et il s'endormit profondément. Le raz-de-marée ne l'a pas réveillé. Il a fallu que ce soit les mariniers qui le réveillent. On lui dit, lève-toi et invoque ton Dieu. Des fois, Dieu permet que ce soit des païens qui parlent à ses enfants pour leur montrer qu'ils sont pas dans la condition qui devait être la leur. Et vous connaissez la suite du récit. Il a fallu qu'il soit pris pour jeter dans la mer et que Dieu permette à un grand poisson de venir l'avaler. Puis Dieu donnera l'directive au poisson pour aller vomir Jonas sur le rivage. Pourquoi? Parce que dans le ventre du poisson, malgré la désobéissance, c'est là la grâce de Dieu, Jonas était toujours prophète. Je ne sais pas s'il s'est mis à genoux dans le ventre du poisson, mais il a prié. Et ce que je sais, sa prière dans le ventre du poisson, Dieu l'a entendu. Et Dieu a envoyé ses directives pour que le poisson puisse aller vomir Jonas sur le rivage. Le second sommeil, c'est celui que nous qualifierons comme étant le sommeil de la présomption. Sommeil de la présomption. Monsieur Eutychus, jeune homme, dans Acte 20, on ne sait pas pourquoi, le voici qui s'assied sur le bord d'une fenêtre au moment où l'apôtre Paul prêche, puisqu'il doit partir en mission. Emporté par le sommeil, il tombe du troisième étage en bas. Lorsqu'on voulut le relever, il était mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras, fait tout un processus de relèvement, et dit en discernant, « Ne vous affolez pas, son âme est en lui. » Frères et sœurs en Christ, Paul est descendu du troisième étage, mais Jésus est descendu du ciel. Et ce matin, c'est lui qui a le pouvoir de nous relever, à condition que nous soyons vigilants sur le chemin de la persévérance, pour ne pas se laisser emporter par le sommeil, et puis le sommeil de la fatigue spirituelle. Matthieu 26, Jésus va revenir et les voir endormis. Enfin, prenons garde de ne pas nous laisser gagner par le sommeil. Le sommeil ne vient jamais, eh bien, d'un coup, mais ça commence par une espèce d'assoupissement. Bon, la Bible nous dit que l'assoupissement fait porter des haillons. L'assoupissement fait porter des haillons. D'où l'importance ce matin sur le chemin de la persévérance. Vous savez, quand le sommeil vous emporte, il suffit qu'on vous secoue comme ça un petit peu. Je ne vais pas secouer le feu trop fort. Secoue un petit peu. Il y a deux choses. C'est où on vous secoue, ou on vous éblouit avec la lumière. La lumière vous éblouit, alors vous êtes obligé d'ouvrir les yeux. Mais des fois, Dieu permet que, comme un flash, il envoie ça dans notre esprit, dans nos consciences, pour que nous puissions comprendre que la situation, la position qui est la nôtre, ne lui convient pas. Première leçon, confronté à l'hostilité du monde, l'opposition de Satan sur le chemin de la persévérance, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Nous avons un grand souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Deuxième leçon, l'importance sur le chemin de la persévérance, une marche dans l'humilité. Et cette humilité, vous savez, où elle me place, elle va toujours m'amener à me placer derrière Jésus. Alléluia. Et quand je suis placé derrière Jésus, alors je m'efforce de marcher dans l'empreinte de ses pas. Troisième leçon, sur le chemin de la persévérance, veillez à ne pas se laisser gagner par le sommeil. Ni le sommeil de la fausse sécurité, ni le sommeil de la présomption, ni non plus le sommeil de la fatigue spirituelle. J'en ai pris trois, hein, parce qu'il y en a, il y en aura d'autres, mais ce n'est pas la peine que je puisse, dans ce domaine-là, aller très loin. Et puis je vous donne la dernière leçon. La dernière leçon, C'est à partir du verset 47. Verset 47. Luc 22, verset 47. 48. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait, dites avec moi, Judas. Qui était Judas? Eh bien, la Bible nous le dit, l'un des douze marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Cela s'appelle la trahison. Mais sur le chemin de la persévérance, il se peut que tu connaisses la trahison. Non pas d'un étranger. C'est pas un étranger. Mais la trahison d'un frère ou d'une sœur. Comment ça, pasteur gentil? Mais c'est mon frère, c'est ma sœur. Ben oui, tu peux être victime de la trahison d'un frère ou d'une sœur. Par exemple, je prends un élément qui est simple. Quelqu'un avec qui on est proche, on lui fait des confidences en lui donnant des choses qui nous concernent, mais qui sont des choses que nous souhaiterions garder secrètes. Ça vous est jamais arrivé? Et puis, voici que, dans une circonstance particulière, ce que vous avez révélé comme étant secret, et partagé avec un proche, ou une proche, voici que ça éclate en plein jour. Vous avez été trahi par quelqu'un qui est proche, en qui vous aviez confiance, et qui a répété ce que vous lui avez confié. Je te dis ça, mais il faut pas le répéter. Hein. Et quand on dit ça à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Alors pourquoi ce qu'on lui a dit en lui faisant confiance est répété? Et plus tard, ça vous revient en pleine figure. On est chrétien, on est enfant de Dieu. Et malheureusement, un secret qu'on a confié est révélé. Donc, on est victime de trahison. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur gentil? Eh bien, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est tirer le son. Tirer le son? La prochaine fois, tu sauras qu'il faut pas confier tes secrets à n'importe qui. Confie tes secrets à Jésus-Christ. Et tu es certain que Jésus ne va jamais répéter ce que tu vas lui confier en secret à quelqu'un d'autre. Jésus, c'est un coffre-fort, excusez-moi, c'est un coffre-fort qui est sûr. Tous les secrets que je peux lui confier, il les met en sécurité. Je te dis ça, mais faut pas le répéter. Et comment se fait-il que ce que je t'ai confié est répété, est su, et ça me revient en pleine figure, alors que moi je pensais que, bon, je pouvais te faire confiance, tu m'as trahi. Oh, je dis entre un frère et une sœur. Mais sur le chemin de la persévérance, cela peut être aussi entré dans le couple. Cela peut entrer aussi dans la famille. Et ça, c'est une source de difficulté. Jésus leur avait dit, nous montons à Jérusalem. Et ils savaient que Judas, était celui qui était destiné à le livrer. Mais il a continué quand même. Mais vous voyez que Jésus va dire les choses avec parcimonie, quand il faut, comme il faut, ce qu'il faut, pour que, gardant une certaine mesure et une certaine réserve,
rien ne puisse maintenant semer de la perturbation et du discrédit de quelque manière que ce soit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes placés sur le chemin de la persévérance, n'est-ce pas? Non? Oui, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Mais ces quatre leçons que nous avons partagées, eh bien, il se pourrait que nous les connaissions sur le chemin de la persévérance, mais quand ou au moment où nous les connaîtrons, que nous ne soyons pas arrêtés. Parce que certains disent maintenant, si c'est comme ça, la vie chrétienne, ils s'arrêtent. Ce sont des choses qui mettent des freins. Pour vous, enfants de Dieu, sur le chemin de la persévérance, mais moi, je ne veux rien laisser m'arrêter sur mon chemin de persévérance. C'est pourquoi je veux toujours garder, et vous avec moi, les yeux fixés sur le chef et le consommateur de notre foi. J'ai encore d'autres points, mais pour ce matin, cela nous suffira. Gloire à Dieu. Alors, on récapitule. La première leçon ce matin à tirer sur le chemin de la persévérance, vous aurez des tribulations, épreuves. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, si Jésus a vaincu le monde, sur le chemin de la persévérance, il va aussi m'aider à vaincre tous les obstacles que je rencontrerai pour que je puisse continuer la vie chrétienne jusqu'au bout. Deuxième leçon importante, sur le chemin de la persévérance, il y a un trait de caractère qui ne doit jamais me faire défaut. C'est cette humilité qui était en Christ, qui doit être aussi en moi, se manifestant dans les diverses circonstances de ma marche sur le chemin de la persévérance. Je ne dois pas m'estimer ou chercher à savoir si c'est moi qui suis le plus grand. Le plus grand dit avec moi, c'est Jésus-Christ. Et quand j'ai le plus grand avec moi et que je persévère avec lui, je n'ai pas besoin de regarder à droite et à gauche, je n'ai qu'à regarder au plus grand. Et quand je regarde au plus grand, alors j'essaie de suivre les traces du plus grand. Alléluia. Et plus je suis Jésus-Christ, plus progressivement, sa personnalité va dépeindre en moi dans l'homme nouveau. De telle manière qu'à la longue, eh bien, je vais tâcher d'œuvrer, l'Esprit Saint va œuvrer en moi pour que je puisse de plus en plus lui ressembler. Troisième leçon, aidez-moi. Ne pas se laisser gagner par le sommeil. Fausse sécurité. Le sommeil de la fatigue spirituelle et le sommeil de la présomption. Et puis dernière leçon, quand je peux, je pourrai ou je serai victime de la trahison, je sache tirer leçon sur le chemin de la persévérance pour que la trahison dont je serai victime ne puisse pas être un frein pour moi. Parce que ça n'a pas été un frein pour Jésus. Au contraire, il savait celui qui devait le livrer. Mais malgré tout, c'est pas la trahison de Judas, c'était Golgotha que le Père avait fixé pour lui. Que son nom soit béni ce matin. Il est au milieu de nous. Alors, parce qu'il est au milieu de nous, nous persévérons avec lui. Eh bien, il sera dans les moments où nous aurons besoin, eh bien, faire le travail pour nous donner à avancer.